Sur le vif, je dirais que pour moi, l'innovation publique, c'est d'abord les questionnements. C'est se questionner sur des pratiques, sur des façons de faire, des relations avec les usagers, par exemple. Et c'est aussi la rencontre entre plusieurs acteurs, usagers, services, entre élus. Et c'est faire en sorte que tout le monde se rencontre et se connecte sur un sujet donné.
Cette voix que vous entendez, c'est celle de Julie, jeune directrice de la culture à la ville de Villejuif, que j'ai pu rencontrer à l'occasion d'une journée sur l'innovation ouverte. Cette journée a été organisée cet automne au lieu de la transformation publique, situé au cœur de Paris, un lieu animé par la DITP, un acronyme dont le monde administratif a le secret, et qui signifie Direction interministérielle de la transformation publique. Julie m'a avoué consacrer 20% de son temps de travail sur des missions d'innovation. Et parmi les projets innovants récents qui se sont concrétisés sur son territoire, elle m'a cité la mise en place d'un bus de vaccination mobile pour aller vacciner les habitants dans leur quartier pendant la crise sanitaire. Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Public, et vous écoutez 5 ans d'exploration publique. Je suis accompagné de Lydie Margerie, cheville ouvrière de la revue. Horizon Public, c'est d'abord une revue papier, unique dans le paysage éditorial, la seule consacrée à l'innovation publique. Une revue indépendante, publiée par la maison d'édition Berger-Levrault, qui s'est donnée pour mission d'explorer de nouveaux horizons pour l'action publique. Révolution du management, impact du télétravail sur les organisations, urgence écologique, transformation numérique et sociétale, place des usagers et du design dans l'action publique. Tous ces thèmes sont explorés en profondeur dans la revue. La revue Horizon Public fête ses 5 ans, l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau format. Dans ce podcast anniversaire, en 3 épisodes, on a voulu prolonger les réflexions de l'un de nos hors-séries thématiques, 5 ans d'exploration publique, paru au printemps 2022. Un numéro qui est revenu sur les tendances marquantes de l'innovation publique qu'on a pu observer ces 5 dernières années. L'essor des biens communs, l'innovation en temps de crise sanitaire, la place des usagers et des agents dans la fabrique de l'action publique, le recours au design dans les services publics, les enjeux d'adaptation à la crise climatique et la fin du dogme de l'aménagement du territoire. Ce podcast anniversaire est aussi l'occasion de questionner l'innovation publique. Où en est-elle? Où va-t-elle? Quel bilan peut-on tirer des laboratoires d'innovation publique qui se sont multipliés ces dernières années? Et comment dépasser l'innovation washing, qui consiste à utiliser l'innovation pour communiquer plutôt que pour transformer? Mais c'est quoi au juste l'innovation publique? Alors que le mois de l'innovation publique bat son plein, on a demandé à des agents et à des cadres ce que cela évoque pour eux. Et on commence par Audrey, responsable du développement durable à la mairie de Roubaix depuis plus de 15 ans. Pour elle, l'innovation publique, c'est d'abord un état d'esprit.
Pour moi, l'innovation publique, c'est penser autrement face à un monde qui est de plus en plus complexe, dont les enjeux et les challenges qui sont face à nous sont énormes et qu'on n'a jamais su résoudre jusqu'à maintenant. En tout cas, que l'humanité n'a jamais été confrontée à ça. Et donc, face à des nouveaux sujets, des nouvelles problématiques, il faut penser autrement. Il faut essayer d'avoir une approche qui soit nouvelle pour essayer de répondre à ces enjeux.
Steve, lui, travaille à la Direction Générale Territoire et Mobilité au département de l'Essonne. Il est impliqué en ce moment dans la création d'un tiers-lieu interne pour les agents publics de son département. Il considère que l'innovation doit provoquer un décalage dans les organisations publiques.
Alors pour moi, l'innovation publique, c'est quelque chose qui est nouveau, tout simplement. C'est-à-dire qui déclenche l'étonnement chez la personne qui le découvre. Ça peut être quelque chose de pas nouveau pour beaucoup d'autres personnes. Souvent, dans le secteur public, on dit qu'on a parfois un peu de retard. Mais en réalité, pour nos organisations, c'est souvent quelque chose de détonnant, d'innovant, en fait, qui provoque un décalage. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant.
Camille, elle, baigne dans l'innovation publique toute la journée depuis 5 ans. Elle est chef de projet Innovation ouverte à la DITP, la cellule innovation de l'État. La DITP, créé en 2017, est chargé d'accompagner les administrations, les opérateurs publics et les services déconcentrés dans tous leurs projets de transformation numérique, managériale. Placer le citoyen au centre de l'action publique, c'est devenu le mantra des équipes de la DITP.
L'objectif, c'est vraiment améliorer l'action publique en prenant pour point de départ les besoins des usagers, les attentes des citoyens et en intégrant aussi les enjeux écologiques. Et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut renouveler dans notre approche pour cela. Et je pense que l'innovation publique, c'est avant tout... un ingrédient, c'est vraiment la coopération entre les différentes parties prenantes de l'action publique. Après, c'est aussi des méthodes, etc. Mais je pense que c'est avant tout une ambition, un état d'esprit, une posture qui sont déjà vraiment comme point de départ.
Jérôme Filippini est préfet de La Réunion depuis le mois d'août 2022. Il a surtout contribué à créer le SGMAP, le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique, créé en 2012 et qui est un peu l'ancêtre de l'actuel DITP. Pour ce haut fonctionnaire modernisateur, l'innovation publique est aujourd'hui une notion galvaudée. Écoutons les mots de Jérôme Filippini, lus par Lydie.
Pas d'innovation sans attention aux usages. Être innovant, dans la décennie 2020, ce n'est plus seulement être orienté usager, comme on le professait dans les années 2000. C'est aussi, et surtout, être orienté usage, obsédé par le bon usage, des ressources et des relations entre les personnes. Pas d'innovation sans attention au présage. Nous sommes entrés, pour plusieurs décennies, dans un cycle de crise climatique, sanitaire, sociale, géopolitique et démocratique. Si nous voulons échapper aux solutions simplistes et violentes, celles des gourous, celles des démagogues, il nous faut être attentif au présage, c'est-à-dire attentif aux signes avant-coureurs. Les jeunes générations d'acteurs publics doivent apprendre à explorer le futur, lire les prémices, anticiper les tendances et prolonger les dérivées avant même qu'elles ne soient tracées. D'où l'importance de développer la culture de la donnée, savoir réunir des données en grand nombre, savoir les exploiter, savoir changer de direction si leur analyse montre qu'on s'est trompé. D'où l'importance aussi de laisser de la place à la fiction et à la rêverie. Tout ne se déduit pas de l'observation du passé ni du constat du réel. À mesure qu'ils vont rencontrer des défis inédits, les décideurs auront de plus en plus besoin de rêver pour imaginer des solutions adaptées à un monde inouï. Enfin, pas d'innovation sans courage. Être innovant, dans les temps qui viennent, consistera à parler un peu moins d'innovation. Il va falloir remettre en cause les idées reçues, les façons de faire, mais aussi les clichés sémantiques qui nous enferment, à commencer par celui de l'innovation. Il va falloir se remettre en cause, accepter des changements qui nous mettent en risque, qui peuvent nous faire perdre une position établie. Il va falloir lâcher prise, avant même d'être sûr qu'on attrapera la prise éloignée, là-haut, sur cette paroi abrupte. Il va falloir enfin endurer, absorber une partie de l'attention pour ne pas la diffuser à son entourage, faire preuve de calme dans la tempête et inspirer confiance à ceux qu'on guide ou qu'on accompagne.
Quelles tendances vont marquer durablement la transformation publique ? Nous avons pris le soin de les décrypter au cours de ces 5 dernières années dans la revue. L'enjeu, aujourd'hui, c'est de basculer dans une nouvelle séquence de l'innovation, plus systémique, moins expérimentale, et une innovation en phase avec les grandes transformations à l'œuvre. Qu'en pense justement Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région et surtout un acteur lucide du monde de l'innovation ? La 27e région est l'un des laboratoires publics de recherche-action qui accompagne les collectivités dans leur transformation depuis près de 15 ans. En 2014, son association a même été sélectionnée par Bloomberg Philanthropy et l'agence d'innovation sociale britannique Nesta comme l'une des 20 initiatives les plus inspirantes du monde dans le champ de l'innovation publique.
Les tendances telles que je les ressens, d'abord, il y a de façon un peu générale, il y a une forme d'épuisement des formes classiques de l'innovation publique. Je pense qu'il y a des gens qui aussi attendent de comprendre quelle est la vision qu'il y a derrière. C'est-à-dire, innover, c'est bien, mais avec quelle finalité. Et du coup, en ce moment, il y a un réalignement de l'innovation avec les sujets de sobriété, de redirection écologique, de justice sociale. Et donc, ça pourrait devenir, enfin intéressant. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a enfin des finalités de transformation publique qui font corps avec les besoins de la société d'aujourd'hui. Mais et puis après, les tendances que je ressens, ça va un peu dans deux directions. C'est-à-dire il y a à la fois une direction d'approfondissement. J'ai un collègue en Angleterre qui parle de boring innovation. C'est-à-dire que maintenant, on a attaqué la surface visible de l'iceberg, mais maintenant il faut attaquer la sous l'iceberg. Et donc c'est aussi de l'innovation réglementaire, c'est de l'innovation de gouvernance, c'est de l'innovation comptable.
Un autre chantier majeur, c'est la transformation écologique et le basculement dans le monde anthropocène. Stéphane Cordobès, directeur de l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand, milite justement depuis de nombreuses années en faveur de cette bifurcation.
Autrement dit, simplement changer à la marge nos manières d'habiter les territoires, nos manières de construire dans les territoires, nos manières de nous déplacer dans les territoires, nos manières de consommer les territoires. Le troisième sens de global sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un changement qui va radicalement modifier notre manière d'habiter ces territoires jusqu'à la manière de ressentir ces territoires ou les espaces dans lesquels nous vivons. Donc c'est une globalité extrêmement vaste, profonde, qui va tout simplement nous obliger à réinventer nos manières de vivre. Et dans nos manières de vivre, c'est aussi nos manières d'être émus, d'être affectés par les autres, par l'environnement qui est le nôtre, etc., etc. Donc un changement global qui nécessite, oui, d'aménager, d'urbaniser autrement, mais c'est un autrement extrêmement radical qui reste encore très largement à inventer.
Nicolas Cada, professeur de droit public et adjoint au maire à Grenoble, est sur la même longueur d'onde. Il considère que les innovateurs vont devoir se mettre au service de l'urgence écologique.
L'innovation publique est contrainte et condamnée à se mettre au service de cette cause qui est la lutte contre les dérèglements climatiques. Avec un paradoxe quand même important, c'est que, en dépit de cette volonté des habitants de mieux participer, de se réapproprier la décision, enfin de mieux participer à la décision, de se réapproprier la chose publique, on voit bien aussi que l'innovation va passer aussi, pas seulement, hein, mais va passer aussi par des solutions parfois technologiques. Des renoncements. Alors sur les solutions technologiques, ça veut dire nécessité de recourir à la science ou à une expertise que les habitants par définition n'ont pas, et donc admettre le rôle de l'expert et de la science comme apporteur possible de solutions, ça c'est le premier point. Et sur le deuxième point, les renoncements, c'est encore plus compliqué peut-être, parce que l'occidental au XXIe siècle est-il prêt à renoncer à un certain nombre de biens qui contribuent aujourd'hui à son confort, tout simplement pour sauver la vie humaine, hein, ou préserver l'habitabilité de la planète.
Parmi les mutations fortes qui affectent les territoires aujourd'hui se trouve le réchauffement climatique. Ce constat partagé et incontestable depuis la publication des nombreux rapports du GIEC doit se traduire par une rupture avec les modèles économiques des Trente Glorieuses. C'est la conviction de David Lebras, délégué général de l'ADGCF, l'association des directeurs généraux des communautés de France, qui rassemble près d'un millier de cadres dirigeants des communautés de communes.
La question écologique, elle est évidemment dans toutes les bouches, dans toutes les têtes. En même temps, quand on regarde de près sa traduction en matière de politique publique, on voit bien que la question écologique est traitée comme une autre question territoriale. C'est-à-dire que quand on regarde les projets de territoire que portent les intercommunalités, chaque projet de territoire est structuré en trois parties: le développement, l'écologie et la solidarité. La problématique, c'est face aux enjeux actuels, ce qu'il faudrait faire, c'est faire de la question écologique la matrice globale du développement économique, de la solidarité, des mobilités, etc. Là, encore une fois, cette politique, elle est juxtaposée avec d'autres. Ce n'est pas encore le référentiel absolu des politiques publiques, et c'est là où ça pêche. Donc, nous, on travaille justement sur ce point-là, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les DG et les élus, évidemment, fassent donc de la question écologique le référentiel absolu des politiques territoriales qu'ils déploient.
Autre grande évolution, la place des citoyens et des habitants dans la fabrique de l'action publique. C'est la conviction d'Elisabeth Do, experte en gouvernance démocratique et cofondatrice de Fréquence Commune, une coopérative qui accompagne les habitants pour réinventer la démocratie locale.
S'il y a une tendance majeure, montante et centrale aujourd'hui de l'innovation publique et de l'action publique, c'est pour moi justement la façon qu'on a de repenser la place du citoyen, des citoyennes, voire des habitants, des habitantes, au cœur de la fabrique et de la transformation publique. Donc ça, c'est pour moi une tendance qui est très forte et qui est montante, qui devient pressante, qui a été portée historiquement de plein de façons différentes en France. Je pense qu'elle a été encouragée notamment par ce qu'on appelle la démocratie participative, qui aujourd'hui est à prendre, je pense, avec des pincettes, parce qu'elle qualifie avant tout une démarche institutionnelle d'offre et de déploiement d'offres institutionnelles pour associer les citoyens aux grandes décisions qui concernent l'action publique locale, mais aussi nationale.
La décision partagée à petite échelle et la réappropriation par les habitants de la chose publique sont des évolutions majeures. C'est aussi le point de vue de Nicolas Cada que nous avons entendu plus tôt.
Les principales tendances, elles sont bien à l'image justement des communs. C'est-à-dire que des tendances de fond, en termes d'innovation, qui consistent à aller un peu contre les évolutions les plus récentes, et notamment tout ce qui est nouvelles technologies, professionnalisation, expertise, etc. L'idée plutôt qu'il faut que chacun se réapproprie la décision publique, donc que la décision soit partagée, qu'on soit plus à l'échelle d'une petite communauté. Les communs, ça marche à petite échelle. Je ne sais pas sûr que ça puisse marcher à plus grande échelle, enfin à voir, mais on pourrait multiplier les exemples ou les expérimentations, mais est-ce qu'on peut pour autant avoir une gestion à... L'État s'est emparé de la question des communs, donc on verra. Donc ça, c'est le côté, l'aspect communauté, le lien direct avec les personnes qui me semble une innovation intéressante. Enfin, c'est une forme d'innovation et de retour un peu en arrière, mais de réhumanisation, en réalité, du service public et de la décision publique. On a une tendance à l'éloignement de la prise de décision, une mise à l'écart ou une mise à distance des habitants par des plateformes numériques, par des numéros de téléphone, par des serveurs Internet.
La co-construction des politiques publiques peut se faire aussi avec la société civile. Avec près de 2500 tiers-lieux en France, il s'agit d'un véritable phénomène de société qui démontre la capacité de la société civile à s'organiser pour produire des solutions au plus près des besoins des habitants. Julia Reboa a travaillé jusqu'à récemment comme chargée de projet Nouveaux lieux, nouveaux liens et société numérique au sein de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.
Un truc que font les tiers-lieux et qui est hyper important, c'est l'expérimentation, c'est le pas à pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet, ils font tout de suite, ils bricolent un petit quelque chose et ensuite, peu à peu, ils montent en compétences, l'échelle, etc. Et ça, je pense aussi qu'on pourrait s'en inspirer.
Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Public, la seule revue dédiée à la transformation publique. Et vous venez d'écouter le tout premier épisode de 5 ans d'exploration publique. Dans les deux prochains épisodes, nous poursuivrons notre exploration.
Ce podcast a été réalisé avec le concours de Louis Média, qui en a assuré le montage et la création musicale. Avec la participation de Lydie Margerie, Alexia Dequet, Stéphane Vincent, Stéphane Cordobès, Julia Reboa, Nicolas Cada, Elisabeth Do, David Lebras et Philippe Guichardaz. Horizon Public est une revue disponible par abonnement ou achat au numéro en librairie et sur notre boutique en ligne. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.